Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Je sais que parler du but de l'existence peut créer un certain malaise. Pourtant, considéré depuis la perspective innocente de chaque organisme vivant, la vie est indissociable d'un but apparent, son propre maintien jusqu'à l'inévitable mort de vieillesse. Antonio Damasio est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage intitulé Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec Ella Fitzgerald, I Won't Dance.
Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically,
not this season. Yes, there's a reason. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes, you know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you charm in and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance, mercy be good. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, and that's why I won't dance. Why should I won't dance. How could I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Yes, I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I will not dance, madam, with you. Yes, my heart won't let my feet do things they should do. Yeah, you know what? You kinda lovely.
And so what?
wave that's bumping on the shores. I feel so absolutely stumbled on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos, honey.
Whoa. And that's why I won't dance.
Oh, yes.
Why should I?
Dance.
I won't dance. How could I? I won't dance. Yes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I will dance.
On ne sait rien de votre enfance, Antonio Damasio. On sait beaucoup de choses sur vos théories de la conscience, sur vos théories de la vie. On sait que vous êtes d'origine portugaise, d'où votre nom et votre léger accent magnifique portugais. Mais de votre enfance, rien du tout.
Ah, voilà, un mystère. Hein. Bon, c'était une enfance à Lisbonne, au Portugal. Et c'était une enfance... Je suis fils unique. Et mes parents étaient médicaux. Mon père était médecin, diabétologiste. Et voilà, c'est une enfance que je pensais, ce n'était pas particulièrement heureuse, mais pas triste non plus. Il y avait beaucoup de livres, beaucoup de musique, beaucoup de gens qui m'aimaient beaucoup. Et voilà, c'est tout.
Vous auriez pu devenir musicien ?
Je pense que peut-être je serais très content de devenir musicien, mais je n'avais pas la patience pour répéter. ça serait très dur pour moi.
Mais vous aviez la patience d'élaborer des constructions théoriques, et ce, depuis la prime jeunesse.
Ah, ça, c'est plus facile.
Et pas pour tout le monde.
Et je pense qu'il y a un moment où peut-être que je pouvais être devenu un metteur en scène. Pas musicien, pas compositeur du tout, mais metteur en scène peut-être. J'adorais le cinéma, j'ai même fait des critiques. Quand j'étais à l'université, je faisais des critiques de cinéma. Et j'ai traduit des films américains. En portugais, de faire les légendes. Mais finalement, la médecine m'a beaucoup plu, et voilà, c'est ça. Mais je sentais déjà, quand j'étais dans l'école médicale, que je voulais être neurologue, parce que c'était évident, si je voulais comprendre la pensée, si je voulais comprendre comment nous marchons psychologiquement, ça serait... une belle idée d'étudier le cerveau.
Ah, mais c'est quand même assez étonnant de la part d'un jeune homme que de se dire « je veux essayer de comprendre ce que veut dire penser et je veux essayer de le faire par le biais de la neurologie, c'est-à-dire de la science ».
Oui, mais ça c'est vrai.
Vous auriez pu devenir psychanalyste, peut-être ?
Je pense qu'il y avait un moment où j'étais très intéressé à la psychanalyse, mais c'était très bref. J'ai lu Freud... Je me souviens qu'il avait un de mes professeurs de médecine qui était un grand psychiatre neurologue, pas du tout freudien. Je pense qu'il m'a influencé beaucoup. Il m'a dit, alors Freud, c'est bien jusqu'à un certain moment, mais finalement, ce n'est pas de la vraie science.
C'est ça votre problème. Vous êtes un vrai scientifique, et ce qui n'est pas de la vraie science... Bof. Ça vous fait réfléchir, mais ça ne rentre pas dans votre élaboration théorique.
Oui, ben voilà, c'est ça. Il faut avoir les deux côtés. Il faut avoir une belle imagination, parce qu'on ne peut pas être scientifique sans imagination. Il faut penser à des théories, il faut penser à des hypothèses différentes. Mais il faut aussi, pour être scientifique, il faut avoir le désir de... prouver les choses comme si elles sont, elles sont correctes ou incorrectes. Il faut trouver une vérité. C'est une vérité momentanée, ce n'est pas une vérité pour toujours, mais il y a un certain moment, les choses sont vraies ou ne sont pas vraies. Et ça, c'est absolument nécessaire pour les scientifiques. Et je pense qu'on peut classifier les scientifiques un peu comme ça. Les scientifiques qui ont un énorme désir de prouver les choses, mais pas beaucoup d'imagination. Et les scientifiques qui ont beaucoup d'imagination et qui quelquefois imaginent des choses qui on ne peut pas expérimenter, on ne peut pas trouver les preuves for or against.
Pour ou contre.
Pour ou contre.
Mais voilà. Justement, vous, Antonio Damasio, vous êtes à l'articulation de ces deux camps que vous venez de décrire. Vous êtes un scientifique unanimement reconnu et célébré et traduit dans le monde entier. Et en même temps, vous nourrissez votre œuvre scientifique de littérature, de musique, de théâtre. D'ailleurs, votre dernier ouvrage s'inaugure par l'exergue de Peter Brook qui dit ceci. La vie d'une pièce commence et se termine au moment de la performance. Alors ça n'a l'air de rien, mais en même temps, c'est une synthèse peut-être de votre cheminement intellectuel, philosophique et scientifique. Ouais. Cette phrase de Peter Brook.
Merci de le dire. Je pense que ça aussi, j'adore Peter Brook. Je pense qu'il est, un homme magnifique, un grand homme de théâtre. J'ai trouvé cette phrase, et je pense qu'on l'a même discuté ensemble, parce qu'il est aussi un ami et je le connais très bien. J'adore son travail. Et voilà, il est vraiment un philosophe, Peter Brook. Je pense qu'il...
Un philosophe de l'espace, ça c'est sûr, mais de l'esprit aussi.
Exactement.
Et d'autre part, il a fait beaucoup d'adaptations théâtrales de quelqu'un que vous avez peut-être eu la chance de connaître, qui était un grand neurologue, qui s'appelait Oliver Sacks.
Oui, très bien. J'ai connu Oliver Sacks et on est même devenu, à un certain moment, on est devenu amis. Il était un homme complètement différent, un homme admirable. Je l'aimais beaucoup.
Tout ça n'explique pas pourquoi vous avez quitté votre pays natal pour vous exiler définitivement aux États-Unis, Antonio Damasio.
Mais je ne parle pas d'exil, ce n'est pas un exil. J'adore le Portugal. J'aime bien le Portugal et l'esprit portugais. Il y a des choses magnifiques là, au point de vue historique et au point de vue du moment. Ils sont personnes d'une grande capacité et je n'ai jamais exilé du Portugal. Mais je pense que je voulais les choses que je voulais faire quand j'ai commencé ma carrière scientifique et aussi avec ma femme nous sommes rencontrés à l'école médicale et nous avions des buts très semblables nous avions l'opportunité d'étudier aux États-Unis. Et alors, nous avons commencé notre carrière dans l'autre côte. On a commencé à Boston et on a travaillé avec un grand neurologue de l'esprit, un homme qui s'appelait Norman Gashwind, et aussi avec Warren McCulloch, qui est un grand cybernéticien. Et Norman Gashwind était à Harvard, Warren McCulloch était à MIT. Et c'est curieux parce qu'ils sont venus au Portugal visiter le centre où nous travaillons déjà comme étudiants médicaux. Et nous faisons déjà en début de carrière scientifique là. Et il était très sympathique, ils sont intéressés à nos désirs de comprendre l'esprit de manière différente. Et Norman Gashwind, il était complètement sûr que c'était la neurologie qui allait nous donner cette possibilité. De l'autre part, Warren McCulloch, qui est un des grands inventeurs des sciences informatiques, il était tout intéressé à la computation. Et au MIT, il dirigeait le Research Group of Electronics. Et alors, c'était bon parce que il y avait le côté pur humain qui était lié à la maladie du système nerveux et à une belle théorie de l'esprit, et de l'autre côté, le côté qui aujourd'hui serait le côté de l'intelligence artificielle, c'est parce que c'est ça le commencement. Et alors, c'était une chance formidable d'aller travailler là, comme jeune étudié, même avant d'avoir notre degré médical. Et alors, notre passion pour la grande capacité scientifique aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on est allé là. Mais on a toujours maintenu un lien avec le Portugal.
Ce qui est extraordinaire dans votre histoire, Antonio Damasio, c'est qu'avec votre femme, Anna, qui est neurologue comme vous, vous n'avez jamais disjoint l'expérience clinique de la théorie et de l'élaboration de nouveaux concepts. Et vous avez ouvert un centre où vous avez soigné des gens. Comment l'expérience clinique peut-elle nourrir votre élaboration théorique?
Ah mais
tout le temps.
Tout le temps est une forme extraordinaire parce qu'il y a là une vérité qui vient de la souffrance et la possibilité des gens d'observer leur souffrance, quelque chose qu'on peut faire avec la conscience. Et ça ouvre les perspectives sur ce qui est l'esprit humain et sur ce qui est l'humanité. Je pense que c'est une...
Au départ, c'est l'observation des malades et l'apprentissage de la compréhension de la souffrance chez les malades qui ont nourri votre théorie, Antonio Damasio.
Je n'ai jamais pensé ça, mais c'est peut-être probable. Et il y a le lien entre les choses qu'on observe si on est un médecin et si on est un médecin de l'esprit. Il y a des choses qui sont très semblables aux observations des grands écrivains, par exemple. Et c'est intéressant de voir la correspondance. Ce n'est pas tellement différent d'être un observateur d'être humain malade ou d'être, par exemple, quelqu'un comme F. Scott Fitzgerald qui observe l'esprit humain de son côté littéraire, de son point de vue littéraire.
Ou Faulkner qui parle des flux de conscience.
Voilà. C'est curieux parce que, voilà, une petite observation. Jusqu'avant de dire F. Scott Fitzgerald, je pensais à Faulkner, qui vraiment était un des premiers écrivains américains que j'ai connu bien. Et je me souviens très bien à ce moment, je n'ai pas pensé à ça il y a dizaines d'années, mais le premier livre de Faulkner que j'ai lu, c'était « As I Lay Dying ». Je ne sais pas comment on traduit en français, dans ma mort peut-être. Je sais qu'en portugais, le titre très bien traduit, c'était « Na minha morte », dans la morte à mien. Et voilà, c'est des curieux écrivains. Je pense c'est curieux parce que c'est des grands écrivains du début du XXe siècle qui ont été nourris par une nouvelle science de l'esprit.
Et par beaucoup de psychologie. On peut penser à Marcel Proust aussi, qui étudie à travers lui-même ce qui se passe à l'intérieur de nous.
C'est exactement ça. Il avait bien appris les leçons que venait de la psychologie, y inclut à un certain moment Freud. Mais il avait William James, Freud, tout ça est entré dans cette ligne de pensée.
Sauf que vous, Antonio Damasio, vous y apportez l'incarnation des nouvelles technologies, à la fois médicales, mais aussi de robots. On y reviendra tout à l'heure, mais à la fin de votre nouvel ouvrage, vous parlez de ces machines qui vont peut-être guider notre vie au quotidien. Mais je voudrais vous faire écouter la voix de quelqu'un que vous avez peut-être déjà entendu, qui a peut-être nourri votre imagination. C'est Gaston Bachelard. Il va parler de la faculté d'imagination à laquelle vous prêtez une grande importance. Il va parler donc de cette faculté et de la place des images dans la poésie. C'est une archive INA, la voix de Gaston Bachelard.
L'imagination poétique est donnée généralement comme une faculté joueuse, consciente de son irresponsabilité, courant au-dessus des choses, quittant sans fin dans une virtuosité d'image, une image pour une autre. On la donne comme un besoin insatiable d'expression, besoin qui doit toujours trouver de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Le poète se livre à la vie des formes et des couleurs. Il accélère le mouvement de tout ce qui vit et de tout ce qui resplendit. Si, dans un poème, les images s'immobilisaient, on les accuserait d'être des idées. La poésie, dans la gloire de ses métaphores nouvelles, est toujours, si partiellement que ce soit, une création de langage. Quand un grand poète a parlé, le langage a reçu une promotion définitive.
Nous venons d'entendre la voix de Gaston Bachelard, mais j'ai l'impression de lire du Antonio Damasio quand je l'écoute. Est-ce que les poètes sont, à vos yeux, peut-être ceux qui ont pressenti la neurologie scientifique et la compréhension du fonctionnement du cerveau ?
Ils sont certainement très capables, au même moment, d'avoir la compréhension de que c'est sont les sentiments. Le lien entre les sentiments et les descriptions du monde qui nous entoure et aussi la possibilité de traduire tout ça dans en nouvelle code qui est le langage. Et j'adore cette phrase merveilleuse, c'est une promotion que la communication verbale vient de subir, la possibilité de transmettre toutes ces choses-là qui, normalement, peuvent être transmises par des peintures, par des sons musicales, et qu'à un certain moment, dans la poésie, on a la possibilité de les transmettre par des mots, et des mots dans une certaine syntaxe.
Alors vous, Antonio Damasio, vous avez commencé, en tout cas en traduction française, par un livre qui s'intitulait « Le sentiment même de soi, corps, émotion, conscience ». Ensuite, il y a eu Spinoza avait raison, le cerveau de la tristesse, de la joie et des émotions. On reviendra à l'importance de Spinoza pour vous. Ensuite, il y a eu l'erreur de Descartes, puis l'autre moi-même, l'ordre étrange des choses, et maintenant ce livre, Sentir et savoir. Plus vous avancez, Antonio Damasio, plus on a l'impression que vos théories scientifiques articulées sur des réflexions et des argumentations ultra-argumentées vont vous faire approcher du sentiment même de la vie. Comment définiriez-vous la vie aujourd'hui en 2021 ?
Ah, ça c'est difficile, hein. Je ne sais pas si je suis capable de le faire complètement. Bon, alors, dans ce livre, il y a une grande préoccupation. Même les gens qu'on connaissent beaucoup de mon travail au sujet des émotions, et comme les émotions ont une grande importance pour la décision, mais je veux aller un peu plus bas, un peu derrière les émotions, derrière la pensée en général. Et ce qui est derrière, c'est vraiment la traduction de la vie, avec tout ce qui se passe bien ou mal dans la vie, la traduction dans la forme de sentiment. C'est quelque chose qui est le sentir qui précède les émotions, qui précède toutes les idées, qui précède les images que nous faisons du monde autour de nous, les représentations du monde. Parce que le sentir, c'est la représentation originale, c'est la représentation de notre propre corps à un certain moment. Et il y a le corps, comme il y a la vie, comme il y a la régulation de la vie, il y a la possibilité d'être bien ou d'être mal, et il y a la possibilité pour nous, avec un système nerveux, et avec cette possibilité de traduction, il y a la possibilité du bien-être et de se sentir mal. Comment dit-on ? Bien-être, mal-être ? Est-ce qu'on peut dire mal-être ? Ah, voilà. Alors, c'est ça, c'est le début. Et c'est très beau parce que on peut définir une histoire. Et c'est une histoire qui commence avec la vie et sa régulation dans des organismes vivants qui sont très simples, qui n'ont pas de système nerveux, mais qui ont quand même une vie.
Comme les bactéries ou les virus dont on a tellement parlé ces derniers temps.
Vous êtes absolument avec moi. Alors, il y a la vie, et la vie elle-même a ce besoin de régulation. Et pendant beaucoup de temps dans l'évolution, c'était une autorégulation. Là, c'était une régulation automatique. Il n'y avait personne qui dirigeait le programme. C'était fait tant bien que mal, mais c'était automatique. Il n'y avait pas, pour faire un peu d'ironie, prise de conscience de ce qui se passe. Et c'est seulement quand les organismes ont la possibilité d'avoir un système nerveux, et ce système nerveux donne la possibilité de créer une représentation du corps lui-même, alors il a la possibilité de le représenter bien ou mal. Parce qu'à tous les moments, nous sommes entre les deux. Il y a des extrêmes de bien et des extrêmes de mal, mais tout ça va avec la régulation de notre vie. Ce n'est pas seulement jour à jour, c'est moment à moment. Et quand on entre dans cette possibilité de traduire l'état de la vie dans le corps, dans une représentation, voilà l'arrivée des sentiments. Et quand ça arrive, quelque chose de très important arrive aussi, c'est la conscience. Parce que les sentiments sont le début, l'inauguration de la conscience. Tout commence. Et les sentiments sont simplement les informeurs de ce qui se passe dans la vie à un certain moment. Et des informeurs absolument importants, parce que d'abord, c'est une information que vous pouvez utiliser pour bien gouverner votre vie. Alors c'est important du point de vue de survie. Et ça, il y a quelque chose de très magique aussi, c'est qu'il vous pousse à faire quelque chose avec l'information. Ce n'est pas seulement de se sentir bien ou se sentir mal, c'est se sentir mal et avoir l'envie, entre guillemets, de faire quelque chose pour corriger les raisons par lesquelles vous vous sentez mal.
D'où la faculté d'adaptation qui n'appartient qu'au règne des humains.
Exact, qui n'appartient surtout au règne des humains. Même s'il y a des autres vivants qui sont conscients, là nous avons la plénitude, et après nous pouvons faire toutes les constructions qui nous permettent de faire cette adaptation très très bien.
Je vous propose d'écouter la voix de Gilles Deleuze, j'imagine que vous le connaissez.
Oui.
Gilles Deleuze qui va expliquer pourquoi il est fasciné par la neurologie. C'est un extrait de l'abécédaire avec Claire Parnet. À la lettre N, il avait choisi neurologie. On écoute Gilles Deleuze.
C'est vrai que la neurologie là, m'a toujours fasciné. Mais pourquoi? C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il a une idée? Je préfère quand il a une idée, parce que quand il n'a pas d'idée, ça se passe un peu comme dans un billard électrique. Comment ça communique à l'intérieur de la tête? C'est avant de parler de communication, etc., déjà comment ça communique dans la tête? Ou bien dans la tête d'un idiot, je dirais. C'est la même chose aussi, quelqu'un qui a une idée ou un idiot. Il ne procède pas par chemin préformé, par association toute faite. Et bien, qu'est-ce qui se passe là si on savait? J'ai l'impression qu'on comprendrait tout. Alors, ça m'intéresse, par exemple. Et les solutions doivent être extraordinairement variées. Je veux dire, deux extrémités nerveuses dans le cerveau peuvent très bien se mettre en contact. C'est même ça qu'on appelle des processus électriques dans les synapses. Et puis il y a d'autres cas, beaucoup plus complexes peut-être, où c'est discontinu et où il y a une faille à sauter. Et moi j'ai l'impression que le cerveau il est plein de fentes. Et que ça saute, et que ça saute dans un régime probabiliste. Qu'il y a des rapports de probabilité entre deux enchaînements, que c'est beaucoup, beaucoup plus incertain, très très incertain, que les communications à l'intérieur d'un même cerveau sont fondamentalement incertaines, soumises à des lois de probabilité. Mais qu'est-ce qui me fait penser à quelque chose? C'est-à-dire, on peut toujours dire que c'est une vieille question, il n'invente rien, c'est l'association des idées. Alors, il faudrait presque se demander, lorsque par exemple, un concept est donné à, ou un tableau, une œuvre d'art contemplée, regardée, il faudrait presque essayer de faire la carte cérébrale à quoi ça correspond.
Nous venons d'entendre Gilles Deleuze parler de neurologie. C'est une archive personnellement que je ne connaissais pas et que je trouve très fascinante, puisque depuis quelques jours, je suis baignée dans votre œuvre, Antonio Damasio. Est-ce qu'il dit juste Deleuze ? C'était en 88, hein ?
Mais il dit très juste, oui, oui, absolument, absolument. C'est très avancé. C'était quand exactement ?
88.
Ah, voilà, c'est merveilleux. Oui, oui. Non, il est capable de voir à travers. Il est capable de voir quelque chose qui est là, dans le cerveau, un peu caché. Et il serait ravi de savoir comme les choses ont évolué au point de vue de données. Par exemple, quand on regarde le monde incroyable dans vaisseau cérébral ou dans quelques vaisseaux dans notre corps. Ils sont là dans le vaisseau, dans les parois du vaisseau sont vraiment des organes endocrines qui, à tous les moments, font la sécrétion de molécules qui vont régler la capacité de transmettre la courante sanguinée dans ce vaisseau-là. Et cette régulation est faite d'abord automatiquement, et c'est fait parce qu'il y a des molécules qui sont là, qui circulent, mais le système nerveux, à un certain moment, a aussi quelque chose à dire. Alors, il y a le contrôle, c'est exactement comme je parlais des sentiments, il y a le contrôle autonomique, le contrôle original, qui n'est pas sous le contrôle de notre volonté. Et après, il y a un autre contrôle qui vient du système nerveux et qui a aussi un mot à dire dans ce processus. Et il y a aussi un contrôle conscient qui vient de notre esprit et qui dit au système nerveux d'agir et de faire quelque chose dans ce système d'enchaînement de contrôle. C'est quelque chose de...
Donc une architecture d'une complexité extrême, mais oui, maintenant on peut vérifier grâce... aux techniques,
oui,
on
peut les visualiser. C'est merveilleux parce que quand on pense aux choses que nous faisions il y a une vingtaine d'années, même avec les nouvelles imageries cérébrales, avec le PET scan ou le MRI, ça c'est quelque chose d'absolument primitif au sujet du moment, parce que aujourd'hui nous avons des possibilités qui sont énormes comparées à ce que nous avions en l'année 2000.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Antonio Damasio, c'est la sonate pour piano numéro 2 de Mozart en fa majeur, le premier mouvement, interprété par Maria João Pires.
Thank you. Les animaux, eux, vivent dans un monde beaucoup plus contextuel que l'homme, puisqu'ils ne vivent pas dans le monde du signe, et dans le monde de la parole, et dans le monde de nos récits. Alors que l'homme, lui, vit essentiellement dans un monde de récits, et dans un monde virtuel d'abstraction, de lois mathématiques. C'est-à-dire que nos émotions ont un pied dans la matière cérébrale. Si je stimule le rhinencéphale, c'est-à-dire le cerveau du nez, le cerveau des émotions et de la mémoire, je vais me représenter un monde totalement différent. Si je fais une ablation de mon lobe préfrontal, eh bien je vais avoir une représentation du monde totalement différente. Donc j'ai dans mes émotions d'homme, j'ai un pied dans la matière cérébrale. Mais dans mes émotions d'homme, en tant qu'être parlant, j'ai un autre pied dans les récits structurés autour de moi par ma culture, par ma famille, par mes amis, par mon groupe. Et à ce moment-là, ces récits, ces représentations verbales, ces représentations artistiques de théâtre, de cinéma, de roman, vont aussi déclencher en moi des émotions. Et j'ai ce qu'on disait tout à l'heure, je vis dans la double naissance que vous avez nuancée en disant les naissances successives de l'homme. Oui.
Nous avons entendu successivement Maria Rouaud-Pirèche interpréter Mozart, puis nous venons d'entendre la voix de Boris Cyrulnik, c'était le en juin 1996, qui parlait justement du rôle des émotions et de la capacité de récit en l'homme. Et quand j'écoute Boris Cyrulnik, je me dis que vous, Antonio Damasio, vous participez d'un seul et même mouvement, c'est-à-dire de quelque chose qui est fascinant, même si c'est peut-être par moments difficile de comprendre la structuration de vos théories, l'origine de vos théories, mais il y a quelque chose qui apparaît commun entre vous deux, c'est que les émotions, c'est absolument le socle de notre humanité, pour chacun d'entre nous. Vous, théoriquement et neurologiquement, vous y accordez une importance considérable, et d'autre part, la capacité de langage et d'organiser par le langage notre propre récit vous apparaît aussi, je crois, Antonio Damasio, comme étant constitutive de notre être dans le monde.
Absolument, il y a tous ces niveaux. Et le récit était parfait, accorder des différentes structures mentales ou neuronales qui achèvent des choses différentes et qui nous amènent dans ce grand cercle qui est notre vie mentale avec tous ces aspects basiques de contrôle et l'aspect plus complexe qui normalement nous appelons de psychologique, et finalement la projection de tout ça dans le monde social qui est quelque chose de très important, parce que vraiment tout ce qui se passe dans notre monde social, si on parle de l'éthique et des normes morales, si nous parlons de l'économie ou de processus politique, tout ça sont des projections du système de régulation basique de notre vie. C'est à un niveau bien plus complexe. Le but est le même. Le but, c'est de réguler, c'est de ne tomber dans la chute, de pas tomber dans une direction irréversible où il ne serait pas possible de sauver, entre guillemets, la vie, sauver cet ensemble. Mais au fond, c'est la même chose. Au fond, il y a une homéostasie dans notre corps, il y a une homéostasie dans notre vie culturelle.
Donc l'homéostasie, c'est un concept que vous développez depuis maintenant pas mal de décennies et que vous utilisez dans plusieurs de vos ouvrages, Antonio Damasio, et ça désigne une sorte de bain dans lequel nous vivons. Une sorte de situation.
Absolument. Nous sommes condamnés à ça. Parce qu'il y a, cette chose merveilleuse qui est la vie.
Oui, mais alors justement, la vie. Parce que vos livres posent beaucoup de questions et elles sont essentielles. Et elles sont d'ordre philosophique et d'ordre éthique, de manière très liée, consubstantiellement liée. Est-ce que tout homme a conscience qu'il vit ? Est-ce que c'est le signe qu'on est un homme ou une femme, je veux dire Et est-ce que la vie veut la vie?
J'essaie de répondre avec un seul mot, mais non, c'est pas possible. Je dirais qu'en général, oui. En général, oui. Et c'est pourquoi notre conscience est une conscience particulièrement développée, même si je pense que nous partageons cette conscience avec beaucoup d'autres animaux, évidemment. Mais nous avons là une conscience de conscience qui est très particulière dans son enlargement dans les êtres humains. Nous sommes très conscients que nous avons cette conscience et c'est pourquoi il est possible de nous projeter dans la musique, dans la poésie, dans le théâtre.
Et le sentiment de la vie, à partir du moment où on est, N-A-I du verbe naître, on veut pas le lâcher, ce sentiment de vivre.
Voilà. C'est pourquoi la mort est une chose un peu difficile. Un peu difficile à penser, un peu difficile à accepter, mais à ce moment, il le faut.
Alors, une autre piste de réflexion très passionnante à l'intérieur de votre dernier ouvrage, Antonio Damasio, c'est l'intelligence. Mm-hmm. Vous développez beaucoup de cheminements pour essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence. Vous dites qu'une bactérie est intelligente, un virus est intelligent, les animaux sont intelligents, les arbres sont intelligents. Vous prouvez d'ailleurs pourquoi. Ils s'adaptent, etc. Ils sont extraordinaires. Les arbres, il y a une éloge de l'intelligence des arbres. Mais les dernières pages de votre ouvrage abordent la question de l'intelligence artificielle. Vous en êtes un des plus grands spécialistes au monde. Mais vous nous projetez dans un avenir qui semble-t-il est proche, à l'intérieur duquel ces fameux robots, qui d'ailleurs nous environnent déjà pas mal, mais vont continuer à nous environner, à être de plus en plus présents. Et vous nous dites quand même, à petit bruit, mais vous nous dites quand même que ces robots vont peut-être être dotés alors d'intelligence.
Oui. Il y a la possibilité de le faire plus intelligent qu'ils le sont en ce moment et curieusement grâce à une vulnérabilité qui est très semblable à la vulnérabilité de la vie qui est très bien exprimée par les sentiments. Alors l'idée que nous avions c'est que quand on peut faire un robot qui, au contraire du moment, parce qu'à ce moment, les robots sont extrêmement rigides et solides, c'est très difficile à les détruire, parce qu'ils sont faits des matériaux qui n'ont pas de vie, des matériaux qui...
Et puis ils ne meurent pas, eux, ils vont peut-être rester très longtemps après notre mort.
Exactement. Mais si on peut introduire un peu de vulnérabilité, si les matériaux sont capables de changer de conditions, un peu comme nous, qui vont changer avec la température, avec les calories que nous mangeons, alors il y a une possibilité de faire leur intelligence...
La maîtrisée par les hommes ou pas du tout?
Absolument. Dans ce cas, ce serait plutôt maîtrisée par les hommes. Et de faire créer des points communs entre les choses vivantes et les choses artificielles. Et le curieux, c'est que dans les essais que nous faisons en ce moment, il y a même la possibilité, même avec des choses complètement artificielles, quand nous introduisions quelque chose de vulnérable, le programme fonctionne un peu mieux. Alors il y a quelque chose de paradoxal, l'idée que la vulnérabilité, que normalement est vue comme une, comment dit-on, weakness, faiblesse, devienne au contraire une source de puissance. C'est très très curieux. Alors, je pense que dans un an ou deux, on va avoir il y a des travaux, il y a des algorithmes sur lesquels nous travaillons en ce moment qui, je pense, vont donner la preuve de ça.
Ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, là, Antonio Damasio, c'est qu'encore une fois, des artistes l'ont pressenti, et notamment un metteur en scène français qui s'appelle Joël Pomera, a fait un spectacle il y a 2-3 ans où, pour pouvoir accompagner des personnes qui ne vont pas bien, qui sont des idiots, comme vient de le dire tout à l'heure Deleuze, enfin qui sont à côté du chemin normal, entre guillemets, des hommes, eh bien, il a pressenti que c'était des robots doués de vulnérabilité et de grande écoute qui seuls pouvaient prendre le temps et avoir assez d'attention pour les accompagner. Donc, est-ce que vous ne craignez pas que, en donnant la vulnérabilité à des robots que les hommes construisent, il n'y ait pas, par contre-coup, un peu moins d'humanité à l'intérieur des hommes ?
Non, ça ne me préoccupe pas, parce que nous avons l'idée du robot qui se vire contre l'homme et qui acquiert une puissance, une autonomie, je pense que c'est vraiment une idée de fiction. Ça va bien pour Stanley Kubrick, mais ce ne va pas bien pour la biologie. Ce que j'aime bien, c'est l'idée d'utiliser ce que nous connaissons de l'intelligence artificielle et ce que nous travaillons en ce moment, c'est de faire très clair la distinction entre que c'est le vivant, le vrai vivant, et le vivant artificiel. C'est ça que je veux. Je veux que les gens sont complètement alertes pour le fait qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas contrôlées par notre volonté, mais peuvent être contrôlées par des choses mécaniques et des choses qui, évidemment, n'ont pas de vie et n'ont pas de soucis moraux.
Votre livre s'achève par un aveu d'optimisme, et un aveu d'optimisme teinté d'inquiétude, cher aux Portugais en général, l'intranquillité. Vous dites que la vie permet la conscience, en tout cas pour les hommes, mais les hommes ne se rendent pas compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes, et vous parlez justement du dérèglement climatique et des pandémies. Mmh. Comment peut-on rester optimiste aujourd'hui en 2021, Antonio ?
Bon, il y a, à ce moment, je pense qu'on peut être optimiste, parce que même avec toute la stupidité de notre vie politique, la stupidité de ce que nous faisons avec le climat et avec les pandémies, il y a quand même une réaction très pleine de santé. Alors, presque un an, on a fait une vaccine. Alors, c'est ça qui me donne espoir.
Ben merci beaucoup pour votre optimisme et merci infiniment pour vos théories et ce que vous nous donnez comme possibilité de mieux nous comprendre, nous-mêmes, mais aussi les autres. Merci infiniment Antonio Damasio, et je rappelle que votre dernier ouvrage vient juste de sortir aux éditions Odile Jacob et qui s'intitule « Sentir et savoir, une nouvelle théorie de la conscience ».